Chapitre 7. Benji avait retrouvé son lit et dormait paisiblement alors que le centre hospitalier du Nouvel Éden avait tout d'une maison de fous. Humains et biotes couraient entre les civières qui encombraient les couloirs et Nicole s'entretenait par vidéophone avec le gouverneur.
Vous devez nous envoyer toutes les Tiasso de la colonie. Remplacez celles qui s'occupent des enfants et des vieillards par des Garcia ou même des Einstein en cas de besoin. Quant aux cliniques des villages, des humains pourront s'en charger. La situation est grave.
Elle eut des difficultés à entendre la réponse de Kenji, tant le brouhaha était grand.
Oui, nous en sommes à 27 admissions et 4 décès m'ont été signalés. Toute l'enclave de Nara, ces maisons en bois japonaises construites en pleine forêt derrière Vegas, a été dévastée. La progression du feu a été trop rapide. Les gens ont cédé à la panique.
Docteur Wakefield, vous êtes attendu de toute urgence au 204. Elle raccrocha, courut dans le couloir et gravit les marches 4 à 4. L'homme qui agonisait au 204 était un Coréen qui lui avait servi d'intermédiaire auprès de la communauté asiatique à l'époque où elle occupait le poste de gouverneur. Monsieur Kim Lee s'était précipité dans sa maison en flammes pour sauver son fils âgé de 7 ans. Son enfant était indemne, mais il avait subi des brûlures au 3e degré sur la quasi-totalité de son corps. Elle croisa le docteur Turner dans le couloir.
« Nous ne pouvons rien pour lui, » déclara-t-il. « J'aimerais avoir votre avis. Appelez-moi aux urgences, ils viennent d'amener un autre grand brûlé. »
Nicole inspira à plein poumon pour se donner du courage et entra dans la chambre. L'épouse de Monsieur Kim, une jolie Coréenne en milieu de trentaine, était assise dans un angle. Nicole alla l'embrasser. La Tiasso qui surveillait les moniteurs lui apporta une liasse de graphiques. L'état du patient était effectivement désespéré. Quand Nicole releva la tête, elle fut surprise de voir Ali tenir la main du mourant. Elle avait un gros bandage sur la partie droite du crâne.
« Nicole !»
murmura Monsieur Kim en la reconnaissant. Il n'avait plus de visage, seulement un masque de peau calcinée. Ouvrir la bouche l'avait fait grimacer de souffrance.
« Je veux mourir !»
ajouta-t-il. Sa femme approcha de Nicole.
« Il voudrait que je signe la demande d'euthanasie, mais je ne le ferai que si vous m'affirmez qu'il ne pourra plus jamais être heureux. »
« Je ne peux vous dire une chose pareille, »
répondit Nicole après une brève hésitation.
« Il ne survivra sans doute pas plus de 24 heures, et entre-temps la douleur sera insupportable. Et en admettant qu'il se produise un miracle et qu'il survive, il restera à jamais défiguré et invalide.
« Je veux en finir tout de suite, »
insista Monsieur Kim. Nicole envoya la Tiasso chercher les formulaires qui devaient être signés par le médecin traitant, le conjoint et le principal intéressé, s'il était suffisamment lucide pour prendre une telle décision. Pendant l'absence de la biote, Nicole fit signe à Ali de sortir la retrouver dans le couloir.
« Que fais-tu ici ?»
lui demanda-t-elle une fois hors de la chambre.
« Je t'avais dit de rester à la maison et de te reposer. Tu as subi une sérieuse commotion. »
« Je vais bien mieux, maman. Et quand j'ai appris ce qui était arrivé à Monsieur Kim, j'ai voulu faire quelque chose pour lui. Il a toujours été si gentil avec nous. »
« Son cas est désespéré. Je suis surprise qu'il n'ait pas déjà rendu l'âme.
Madame Kim m'a dit qu'il voudrait que sa mort soit utile, et j'ai fait convoquer Amadou, mais il faudrait que tu interviennes auprès du docteur Turner.
De quoi diable parles-tu?
Aurais-tu oublié Amadou Diaba?
L'ami d'Éponine, ce pharmacien nigérien, dont la grand-mère est une Sénoufo.
Celui qui a attrapé le RV41 par une transfusion. Éponine m'a appris que son cœur se détériore rapidement.
Nicole ne pouvait en croire ses oreilles.
Tu voudrais que je demande à Turner de procéder à une transplantation cardiaque manuelle alors qu'il doit faire face à cette crise?
il pourra procéder à l'intervention plus tard dans la soirée. Non ? Il devrait être possible de conserver le cœur de Monsieur Kim pendant quelques heures.
Nous ne savons même pas.
J'ai vérifié. Une des Tiasso s'est assurée qu'il n'y a pas d'incompatibilité.
Nicole secouait à nouveau la tête.
C'est bon. J'y réfléchirai. En attendant, va t'allonger. Un traumatisme crânien ne doit jamais être pris à la légère.
Quoi ? S'exclama Turner. Ce n'est pas le docteur Wakefield qui vous le demande. Intervint Amadou. C'est moi qui vous supplie de tenter cette intervention. Vous m'avez dit qu'il me restait moins de 3 mois à vivre. Je sais que je risque d'y laisser ma peau, mais si vous réussissez, l'échéance sera retardée de 8 ans. D'après les statistiques que vous m'avez montrées, je pourrais même me marier et avoir un enfant. Turner se tourna pour regarder l'horloge murale.
Je veux bien faire abstraction qu'il est plus de minuit et que je viens de soigner des grands brûlés pendant 9 heures d'affilée, mais je n'ai pas procédé à une seule transplantation cardiaque depuis 5 ans. Et j'étais alors secondé par une équipe bien entraînée, et je bénéficiais du meilleur matériel qu'on pouvait trouver sur la Terre. En outre, nous nous contentions de superviser le travail des robots.
Je sais tout cela. Et aussi que je mourrai sous peu si vous ne faites rien. Je doute qu'on trouve un autre donneur avant 3 mois, et Ali m'a appris que vous aviez revu les procédures de transplantation lorsque vous prépariez votre demande de budget.
Le médecin lança un regard interrogateur à la jeune femme.
C'est ma mère qui m'en a parlé. J'espère que vous me pardonnerez cette indiscrétion.
Je serai heureuse de vous assister, intervint Nicole. Je n'ai aucune expérience de la chirurgie cardiaque, mais j'ai terminé mes études dans un centre cardiologique.
Vous ne me laissez pas le choix, fit Turner.
Vous acceptez ?
S'exclama Ali avec l'enthousiasme de la jeunesse.
Turner approcha d'Amadou Diaba. Vous avez peu de chances de vous réveiller.
C'est préférable à aucune, docteur. Encore merci.
Le médecin se tourna vers Nicole.
Retrouvez-moi dans mon bureau dans un quart d'heure, et pendant que vous y êtes, dites à une Tiasso de nous apporter du café.
Les préparatifs de la transplantation réveillèrent des souvenirs enfouis dans les profondeurs de l'esprit du docteur Turner. Il eut même par instant l'impression d'être à nouveau au centre hospitalier de Dallas. À cette époque lointaine, sur un autre monde, il avait été comblé. Il adorait son métier et sa famille.
Ils couchèrent par écrit ce qu'ils devraient faire, puis ils prirent le temps pendant l'intervention de pointer cette liste avant de passer à la suite. Quand le docteur Turner retira le cœur d'Amadou, il montra ses muscles atrophiés à Nicole et à Ali, qui avaient insisté pour être présentes au cas où elles pourraient se rendre utiles. L'organe était en si piteux état que le patient serait probablement décédé moins d'un mois plus tard. Une pompe assurait la circulation du sang pendant que le nouvel organe était raccordé aux artères et aux veines. C'était un travail délicat, habituellement exécuté par des robots qui avaient des gestes bien plus précis que les hommes. Mais Turner se passait d'assistant cybernétique depuis 3 ans, et la dextérité avec laquelle il relia les vaisseaux sanguins au cœur le surprit. Quand il eut terminé, Nicole lui proposa de prendre la relève, mais il secoua la tête. Bien que l'aube fût sur le point de se lever, il tenait à aller jusqu'au bout. Est-ce la fatigue ou l'adrénaline qui lui joua des tours ? Toujours est-il qu'il crut voir à plusieurs reprises les traits d'Amadou Diaba se métamorphoser. Cet homme se modifiait sous ses yeux pour devenir Carrie Tyson, le jeune noir qu'il avait assassiné à Dallas. Il fut même terrifié par son sourire ironique, mais il n'eut qu'à siller pour voir à nouveau son patient. Finalement, il demanda à Nicole si elle n'avait rien remarqué.
C'est la première fois que je vois quelqu'un sourire ainsi sous anesthésie, répondit-elle simplement.
Quand les Tiasso les informèrent que toutes les données biométriques étaient satisfaisantes, ils ne purent contenir leur joie malgré leur épuisement.
Le médecin invita les deux femmes à le rejoindre dans son cabinet pour prendre une dernière tasse de café. Il ignorait encore la nature de la proposition qu'il ferait à Ali. Sidérée, elle resta à fixer Turner qui lança un regard oblique à Nicole avant de reporter son attention sur elle.
« J'ai conscience que c'est pour le moins inattendu, »
fit-il.
« Mais je n'ai plus aucun doute sur mes sentiments. Je vous aime et je veux vous épouser au plus tôt. »
Il alla verrouiller la porte et débrancher le vidéophone. Ali ouvrit la bouche.
« Non, »
fit-il.
« Attendez. Je veux au préalable vous révéler certaines choses. »
Il s'assit et inspira profondément.
« J'aurais dû vous en parler il y a longtemps. Vous devez connaître toute la vérité sur moi. »
Des larmes firent briller ses yeux avant même qu'il n'eût commencé son récit.
« J'avais 33 ans et je nageais dans le bonheur. J'étais un des chirurgiens les plus réputés d'Amérique et mon épouse, une femme belle et aimante, m'avait donné deux filles âgées de 2 et 3 ans. Nous vivions dans une magnifique villa à une 40 kilomètres au nord de Dallas. Un soir, où j'étais resté très tard à l'hôpital pour superviser une intervention délicate, les gardes m'ont arrêté au portail de la résidence. Ils étaient visiblement gênés, mais après avoir téléphoné à quelqu'un, ils m'ont fait signe de passer. Des camionnettes de la télévision, deux voitures de patrouille et une ambulance étaient garées devant chez moi. J'allais m'engager dans l'allée quand un policier m'a interpellé. Sous les flashs et les projecteurs qui m'aveuglaient, il m'a ouvert la porte. Ma femme gisait sous une couverture, dans le vestibule, la gorge tranchée. J'ai entendu des voix à l'étage et je me suis précipité dans l'escalier. Christy était sur le sol de la salle de bain et Amanda dans son lit. Le salopard les avait également égorgés. Des sanglots l'ébranlèrent. Je n'oublierai jamais ce carnage. Amanda avait dû être tuée alors qu'elle dormait, car elle ne s'était pas débattue.
Il se mit à pleurer. Ali vint s'asseoir en tailleur près de lui et prit sa main dans la sienne.
J'ai vécu les 5 mois suivants dans une profonde prostration. Je ne pouvais pas travailler, pas même manger. Des amis médecins, dont des psychiatres, essayaient de m'aider. Leurs efforts étaient vains. Je refusais d'accepter l'horrible vérité.
La police avait arrêté presque immédiatement un suspect, Carrie Tyson, un noir de 23 ans qui travaillait comme livreur pour le supermarché local. Il était venu chez nous à plusieurs reprises et connaissait bien notre villa. Je ne sortais de mon hébétude que pour me tenir informé des progrès de l'enquête. Au début, tout paraissait d'une extrême simplicité. On avait relevé des empreintes digitales récentes de Tyson dans toute la maison. Cet homme avait effectué des livraisons dans la résidence l'après-midi du drame. La plupart des bijoux de Linda avaient disparu. J'étais convaincu qu'il serait condamné et exécuté. Mais la situation ne devait pas tarder à s'embrouiller. La police ne retrouvait pas le produit du vol. Les gardes avaient noté les heures d'entrée et de départ de Tyson sur leur registre, et il n'était resté à Greenbrier que 22 minutes, un laps de temps insuffisant pour livrer des marchandises et commettre un vol ainsi que 3 assassinats. Un célèbre avocat accepta de le défendre et l'aida à préparer sa déposition. Tyson déclara que Linda lui avait demandé de déplacer quelques meubles, ce qui expliquait la présence de ses nombreuses empreintes. Turner fit une pause pour remettre de l'ordre dans ses pensées. Ali exerça une pression sur sa main et il reprit ses explications. Lors du procès, la partie civile déclara que Tyson avait dû apprendre par Linda que je resterais à l'hôpital jusqu'à 1 heure tardive et décider de revenir plus tard. Toujours selon l'accusation, il avait escaladé le mur d'enceinte, traversé le terrain de golf et pénétré dans notre villa pour nous cambrioler en croyant que tous dormaient. Mais Linda l'avait surpris et, pris de panique, il l'avait tué avant d'assassiner également les enfants
afin qu'il n'y eût pas de témoins. Nul n'avait vu Tyson dans la résidence après sa tournée de livraison, mais les arguments du procureur étaient si convaincants que sa condamnation ne faisait pour moi aucun doute. Il n'avait pas d'alibi. La boue prélevée sur ses chaussures correspondait au limon de la rivière que le coupable avait obligatoirement dû traverser pour revenir chez nous, et il s'était ensuite absenté de son travail pendant 2 jours. En outre, les policiers avaient trouvé sur lui lors de son arrestation une somme importante qu'il disait avoir gagnée au poker. Mais j'ai commencé à douter de l'issue du procès sitôt que son avocat a commencé son plaidoyer. Il a parlé de préjugés racistes, dépeint Tyson comme un noir malchanceux, envoyé en prison sur de simples présomptions, et affirmé avec emphase que son client n'avait fait que livrer des produits d'épicerie. Selon lui, c'était quelqu'un d'autre qui avait franchi l'enceinte de Greenbrier, volé les bijoux, puis assassiné Linda et les enfants. Les 2 derniers jours d'audience, il était évident que les jurés étaient rongés par le doute, et j'ai compris que Tyson serait acquitté. L'indignation me rendait fou. Convaincu de la culpabilité de cet homme, je ne pouvais supporter qu'il soit remis en liberté. Depuis l'ouverture du procès 6 semaines plus tôt, j'allais au tribunal avec mon attaché Case. Au début, les policiers avaient vérifié son contenu, mais ils se contentaient à présent de me faire signe de passer. J'ai pris l'avion pour la Californie, afin de me procurer un fusil de chasse à canon scié dont les éléments tiendraient dans ma mallette. Comme je l'avais espéré, les gardes ne m'ont pas demandé de l'ouvrir le jour du verdict. Sitôt l'acquittement prononcé, un grondement a empli la salle. Tous les Noirs manifestaient leur joie, et Tyson et son avocat, un juif appelé Irving Bernstein, en faisaient autant. J'étais prêt. J'ai ouvert ma mallette, assemblé mon arme, franchi d'un bond la barrière et tué ces 2 hommes. Turner prit une inspiration avant d'ajouter « Je n'avais jamais regretté mon acte. Mais pendant l'intervention sur Diaba, j'ai compris que cela avait empoisonné mon âme. Cet acte de vengeance ne m'a ni rendu ma famille, ni soulagé. Hormis en m'apportant une jubilation bestiale abjecte à l'instant où j'ai commis ces meurtres. » Il regarda Ali. Je suis indigne de vous, mais je vous aime et je veux vous épouser. J'espère que vous pourrez me pardonner ce que j'ai fait autrefois. Elle le fixa droit dans les yeux et exerça une nouvelle pression sur sa main.
Je ne sais rien de l'amour, car je n'ai aucune expérience,
lui dit-elle.
Mais ce que j'éprouve lorsque je pense à vous est merveilleux. Vous m'inspirez de l'admiration et du respect, peut-être même autre chose. Je dois en parler avec mes parents, cela va de soi. Mais s'ils n'ont pas d'objection à émettre, c'est avec joie que j'unirai mon destin au vôtre.